À Ax-les-Thermes, 92.7.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Présence Midi. Après ce moment de prière et de recueillement avec le Regina Celli, quel plaisir de vous retrouver, Anne-Rose Jankovic, pour une émission spéciale, bien sûr, vu l'actualité.
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui une émission spéciale. Nous allons parler du pape François pendant une heure. Nous sommes en plateau avec Monseigneur Jean-Marc Mécal, évêque de Tarbes et Lourdes, et le père Michel Dauban, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Et puis nous aurons par téléphone dans quelques instants Monseigneur Bertrand Lacombe, pardon, l'archevêque d'Auch.
Voilà, exactement. Émission spéciale. Donc on revient bien sûr sur le décès du pape François. Je crois que vous avez déjà peut-être en première le jour de ses obsèques.
Alors oui, la nouvelle est arrivée dans la matinée, ce sera ce samedi à 10h.
Voilà, de suite, donc juste le temps de faire un point sur l'actualité, sur l'essentiel de l'actualité de ce mardi.
Dans l'actualité ce matin, Toulouse rend hommage au pape François. Hier soir, la façade du Capitole était éteinte et les drapeaux qui le pavoisent en berne. Le maire de la ville s'est exprimé et affirme « J'ai l'honneur de le rencontrer en 2013 au Vatican. Je garde le souvenir d'un homme humble, sincère et profondément attaché à la paix. Son départ nous invite à poursuivre ce chemin de solidarité. Un registre de condoléances est ouvert dès aujourd'hui aux Toulousains et Toulousaines à l'hôtel de ville. Un week-end de Pâques sous la neige, la baisse des températures en ce week-end pascal a permis aux flocons de tomber à certains endroits, comme au Mont-Lozère. La neige a même perturbé le trafic routier avec des routes enneigées voire glissantes. Le quartier de la place du Puy inondé dans la nuit de samedi à dimanche en raison d'une importante fuite d'eau liée à une rupture de canalisation. Une coupure d'eau pour les habitants d'une quinzaine de bâtiments à proximité et très peu de dégâts sur les biens constatés sont à signaler. Les travaux de la ligne C avancent, l'agence Tisséo se félicite même d'une étape clé. Il s'agit du perçage de la station Bonnefoy, désormais reliée à la station Raisin. La prochaine étape est le relais avec la station Matabiou-Gare pour cet été. Le Lot aussi concerné par la hausse de baptême. Pour rappel, les conversions ont atteint un pic de 17 000 en France cette année. Dans le diocèse de Cahors, les chiffres de baptême adultes sont également en hausse, avec 15 en 2025 contre 3 en 2024. D'après Monseigneur Laurent Camiade, évêque de Cahors, il s'agirait d'un élan porté par une quête de sens. Lundi prochain a lieu le lancement du nouveau parcours Alpha Couple, le premier des 8 dîners en tête-à-tête pour aider les couples à renforcer leurs relations. Le rendez-vous lundi prochain à l'Oasis à Toulouse de 20h à 22h30. Le Grindhouse Festival est de retour pour sa 6e édition à Toulouse. Le festival de films fantastiques prend part dès demain au cinéma à l'American Cosmographe. Et ce jusqu'à dimanche, au programme de nombreux longs et courts métrages axés sur le fantastique, thriller, science-fiction ou encore horreur. Au total, 20 films sont à découvrir.
Voilà pour l'essentiel de cette actualité qui a été présentée par Émilie Boujama de l'École de journalisme de Toulouse, avec qui Radio Présence a un joli partenariat.
Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
On le disait bien sûr dans le sommaire de ce magazine, c'est une émission spéciale que nous allons avoir avec vous, Anne-Rose Jankovic.
Oui, une émission spéciale consacrée au pape François qui est décédé ce lundi de Pâques à l'âge de 88 ans après 12 années de pontificat. On l'a vu ce dimanche, place Saint-Pierre à Rome, présent jusqu'au bout, la prière pour et avec le peuple de Dieu jusqu'au bout, l'engagement pour la paix jusqu'au bout, le travail jusqu'au bout. Les terrains d'investissement du pape François étaient nombreux, la mission, l'annonce de l'évangile partout dans le monde. L'accueil dans l'église des pauvres, des fragiles, des marginalisés, les divorcés, homosexuels, les femmes, les prisonniers, la question des migrants et des réfugiés, le défi de l'écologie intégrale, la lutte contre les abus, le dialogue entre les nations, entre les cultures, entre les religions. Mais le pape François est aussi celui qui a dénoncé avec force les dysfonctionnements d'une curie romaine trop mondaine et trop riche. C'est aussi celui qui n'a pas su toujours se faire aimer des catholiques soucieux de la tradition et de la doctrine et à qui il n'a pas su faire comprendre peut-être le sens de sa lettre apostolique Desiderio Desideravi sur la liturgie et le trésor qu'est l'Eucharistie. L'héritage du pape François est sans doute et sans ambiguïté un retour à l'évangile, rien qu'à l'évangile, pour tous, tous, tous. Et c'est ce dont nous allons parler avec mes invités en plateau aujourd'hui. Monseigneur Jean-Marc Mika, évêque de Tarbes et Lourdes, et Père Michel Dauban, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et puis dans quelques instants, nous aurons par téléphone Monseigneur Bertrand Lacombe, l'archevêque d'Auch. Alors pour commencer, avant d'aborder les thématiques que je viens d'évoquer, je voudrais que nous parlions de la fin de vie du pape François. Il s'est montré depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, affaibli, malade, pauvre, vulnérable face à la maladie, vieux, en plein débat sur la fin de vie. Pour nous, en France, il a montré au monde les derniers jours de sa vie, bouffi par les médicaments, presque méconnaissable par moments. Et c'est à vous, Père Michel Dauban, que j'ai envie de poser cette première question. Quel message pour les malades ? Qu'est-ce que cela, ça inspire au recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes que vous êtes, Lourdes, qui est un lieu important pour les malades, un lieu où les malades, précisément, ont la première place. Cette fin de vie du pape François, aux yeux du monde, qu'est-ce que ça nous révèle ? Qu'est-ce que ça nous apprend ? Quelle leçon ça nous donne, si ça nous donne une leçon ?
Cette image m'inspire beaucoup. Alors, d'une part, il y a bien évidemment de la compassion par rapport à une personne qui est à ce point diminuée, à ce point souffrant. Et en même temps, il y a un témoignage extrêmement fort concernant la fragilité et la place que la fragilité a dans la vie humaine et en particulier dans la vie lorsque elle est mue par la foi. Voilà, on se rend compte que la fragilité, elle est inhérente à notre humanité et dès lors, c'est bien dans la faiblesse, c'est bien dans la fragilité que l'on peut précisément donner toute sa place au Seigneur lorsque l'on est croyant et que d'une certaine manière nous sommes transfigurés. Donc à travers cette image d'un pape très diminué, il y a à la fois la beauté de la personne qui continue à vivre muée par la foi et par l'espérance qui précisément vient de la foi.
Monseigneur Mika.
Oui, j'ai envie de rajouter un message pour les malades, question à laquelle le père Dauban vient de répondre, mais aussi un message pour tous les autres sur leur manière de regarder les personnes malades, justement. Et dans les débats que nous connaissons dans notre société aujourd'hui, à propos de la fin de vie, à propos de la demande d'être accompagné dans cette manière de finir sa vie, je pense que le pape, de manière tout à fait délibérée, a envoyé aussi un message, non seulement aux personnes malades, mais aussi à tous les autres dans leur manière de les regarder, justement. Non pas comme des personnes qui ont perdu toute dignité, oui. Non pas comme des personnes qui ne méritent plus de vivre, mais un message qui est profondément un message évangélique, de regarder toute personne à la manière dont Dieu les regarde.
Voilà, mais c'est important de commencer cette émission en abordant ce point-là. Alors, on a quelques 50 minutes pour parler du pape François. C'est très court pour regarder tout son pontificat. Durant son pontificat, il nous a proposé, offert 4 encycliques, 7 exhortations apostoliques, quelques 60 motu proprio. Il y a eu de nombreux voyages, de Lampedusa en Irak, de l'Azerbaïdjan à la Corse, des JMJ à Rio, à Cracovie, à Panama, à Lisbonne. À chaque fois, des occasions de prise de parole fortes, même engageantes, on pourrait dire, sur un petit peu tous les fronts. On va essayer d'en balayer quelques-uns. Alors, évidemment, il n'y a pas d'ordre de priorité, mais peut-être pour commencer, on peut parler de la mission, l'annonce de l'évangile partout dans le monde. Le pape François, c'est le pape des périphéries. C'est celui qui nous a parlé des périphéries, qui nous a fait comprendre que l'évangile était vraiment à annoncer au-delà de nos frontières, assez confortable, j'ai envie de dire.
Oui, vous évoquez ces textes, enseignements, actes de magistère forts. Moi, j'ai envie, comme ça, là, spontanément, deux mots. Un que j'ai repris dans ma devise épiscopale en puisant dans le chant du Magnificat de la Vierge Marie, c'est le mot de miséricorde. Il me semble que c'est un mot qui caractérise beaucoup l'enseignement du pape François et sans doute son cœur et l'encouragement ou l'engagement qu'il a adressé à toute l'Église d'être signe, instrument de la miséricorde de Dieu à temps et contre temps, en toutes circonstances, à toutes les périphéries, Donc c'est un premier mot que je retiens pour ma part. Et puis un deuxième mot, c'est celui de joie. Et je me souviens avoir lu avec beaucoup, beaucoup d'émotion le texte « La joie d'Évangile, Evangelii Gaudium », et ce qu'il dit de la joie dont j'aime faire, pour ma part, un commandement, à l'instar du commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Est-ce que l'amour peut se commander ? Interrogeait Benoît XVI et il répondait oui, parce que c'est un acte humain, d'abord le fruit d'une décision libre de la personne humaine, avant d'être un sentiment, et les sentiments viennent après. Eh bien, en lisant le pape François, sa vie, ses enseignements, et ce texte, Evangelii Gaudium, j'ai envie de transposer, de dire la même chose à propos du commandement de la joie, en reprenant Philippiens 4, je vous le demande, soyez dans la joie, soyez toujours dans la joie. Et le commentaire du pape, qui est de dire que la joie doit toujours, on doit toujours laisser la joie de l'évangile grandir, même dans les situations les plus éprouvantes, les plus difficiles. Et c'est une décision avant d'être un sentiment, mais les sentiments viennent après. Et je trouve que c'est la promesse de l'évangile va complètement dans ce sens. Et voilà, ces deux mots pour moi caractérisent François, la miséricorde et la joie.
Et ça c'est une promesse, cette joie qui s'adresse aussi aux plus fragiles, aux marginalisés, aux rejetés de la société, dont il nous a beaucoup parlé pendant tout son pontificat et vers lesquels il nous a vraiment envoyés.
Je pense qu'il faut beaucoup d'audace pour oser dire ça à des personnes particulièrement éprouvées. Alors, cette audace n'était pas seulement une audace en parole, c'était pas simplement le rappel d'un enseignement évangélique, fut-il du Christ même, mais ça se traduisait aussi en acte. Il mettait en œuvre ce qu'il disait, et ce qu'il enseignait profondément, et il engageait toute l'Église à faire de même. Et c'est cette grande cohérence-là qui est un enseignement fort pour nous.
Et en cela, il a beaucoup bousculé l'Église. Peut-être, est-ce qu'on peut dire qu'il a été peut-être malhabile dans sa manière parfois de bousculer ou mal compris ?
Oh, je pense qu'on peut dire beaucoup de choses de lui, mais certainement pas que c'est un homme malhabile.
Je pense il savait très bien ce qu'il disait, à qui il le disait.
Je pense que rien n'était par hasard. Non, c'est pas du manque d'habileté de sa part, peut-être l'inverse.
Père Michel Dauban, sur cette question de la mission et le fait d'aller aux périphéries, de tendre la main aux plus pauvres, aux plus vulnérables, aux rejetés, aux marginalisés, Lourdes aussi est un lieu où ces mots-là résonnent.
Tout à fait. Je pense une fois de plus que la force du témoignage du pape François, c'est précisément d'avoir su allier à la fois des paroles dont il n'a pas eu l'exclusivité et dont il n'était pas le premier à les formuler, du reste, avec un certain nombre d'actes extrêmement parlants. Et dans ce monde de la communication, il a su positionner un certain nombre de rencontres avec telle ou telle personne, avec telle ou telle personne en situation de handicap, se positionner sur le bateau à Lampedusa en train de jeter la couronne de fleurs dans la Méditerranée. Bref, il a su vraiment allier l'acte au discours. Et ça, c'est vraiment sa force absolument incontestable. Alors ensuite, effectivement, à Lourdes, nous avons la grâce de recevoir et, j'allais dire, de vivre à notre manière, bien humblement, précisément ce que, je crois, le pape François a voulu incarner, à savoir une annonce de la foi qui se traduit par des actes. Et j'allais dire, nous sommes très très bien placés, sinon peut-être les mieux placés, je ne sais pas, pour à la fois avoir l'annonce et la célébration d'une foi vivante, joyeuse, comme on l'a vu encore il y a quelques jours avec tous les groupes de jeunes qui sont venus, et notamment le fraternel, le rassemblement des jeunes de l'Île-de-France, avec un positionnement quant à la charité, quant au service des plus petits, en particulier des malades et des personnes en situation de handicap. Et cela touche de la même manière que cela pouvait toucher lorsque le pape, effectivement, indiquait cette voie-là avec les périphéries existentielles dont vous avez parlé. Et ces périphéries existentielles, même si nous sommes sanctuaire national et même si, par rapport à l'origine des pays et des langues, des personnes qui rentrent dans le sanctuaire, on peut dire qu'on est le premier sanctuaire avec autant de personnes qui viennent de pays différents et de langues aussi différentes, et précisément conjugué d'aussi diverses manières, c'est bien ce langage de l'amour qui a pu et qui peut et qui sera demain évidemment annoncé et incarné.
Alors, le langage de l'amour, et alors précisément, il y a un texte du pape François à Maurice Laetitia. Alors là, on parlait des personnes un peu marginalisées. Dans à Maurice Laetitia, il y a vraiment une main tendue, un regard plein de miséricorde sur les personnes LGBT, les divorcés, remariés, pas mal de personnes ainsi marginalisées. On a parlé alors d'un pape progressiste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, progressiste ? Qu'est-ce que c'est qu'un pape progressiste, Monseigneur Mika ?
Ça veut rien dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, un pape progressiste. Pour faire une comparaison, je me souviens un jour, alors on change de religion, on va du côté de l'islam, où quelqu'un, un musulman, était présenté comme un musulman modéré. Et il avait réagi fortement en disant non, je ne suis pas un musulman modéré, je suis musulman. C'est les autres qui sont des intégristes. Et donc, un pape progressiste, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le pape est le successeur de Pierre, et je suis vraiment, pour ma part, profondément convaincu que l'Esprit Saint donne à l'Église et au monde le pape dont ils ont besoin au moment qui convient. J'ai formulé cette conviction à l'époque de Jean-Paul II. J'en étais vraiment convaincu aussi à l'époque de Benoît XVI et encore maintenant avec le pontificat du pape François. L'expérience montre, et je pense que la relecture que nous ferons du pontificat de François le confirmera, que à chaque époque on a le pape qu'il faut au moment où il faut, le prophète qu'il faut au moment où il faut. Voilà, vraiment. Et donc, pour moi, l'expression « un pape progressiste ou traditionnaliste », ça ne veut strictement rien dire. On a le pape qui est chargé d'enseigner ce que l'Église enseigne. Je me souviens d'ailleurs d'une question posée à François dans un avion. C'était aux États-Unis. Et on lui faisait le reproche, on lui demandait plus exactement ce qu'il pensait du reproche que certains lui font. Du soupçon, il venait de Cuba, je crois, et il allait aux États-Unis pour la conclusion de la rencontre des familles, quelque chose comme ça. Et on lui disait, voilà, certains vous accusent d'être plus doux, moins sévère quand vous vous adressez à des régimes marxistes que quand vous vous adressez à des pays capitalistes, modernes, et des catholiques traditionnalistes. Alors, est-ce que ça veut dire que vous seriez de gauche ? Bon, alors il raconte une petite blague pour répondre dans un premier temps. Et ensuite, la question qui allait avec, c'était « Est-ce que vous n'avez pas peur que l'Église ne vous suive pas ?» Et il avait répondu « Vous savez, mon propos, c'est pas que l'Église me suive, mais c'est moi de suivre l'Église. Mon projet, mon ambition, mon angoisse tous les jours, c'est d'être fidèle à l'Église, d'être fidèle à ce que l'Église enseigne. » Et essayer de trouver dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais, quelque chose qui n'appartienne pas à l'enseignement traditionnel de l'Église, et je me convertirai aussitôt. Et j'ai été très marqué par ça. Mon propos est de suivre l'Église. Et je crois qu'en effet, c'est ce qu'il a fait. Et donc l'Évangile est un glaive. Hein, c'est pas nouveau, c'est pas lui qui a dit ça, ni qu'il a incarné le premier. L'Évangile est un glaive. Et pas accompagner le confort de quelques-uns qui sont bien dans les clous, bien sur les rails et bien en règle. L'Évangile est un glaive, une parole de contradiction avec l'esprit du monde, et le pape incarne ça. Alors il n'est ni progressiste ni traditionaliste, selon que ce qu'il dit me prend à contre-courant ou me conforte dans ce que je crois. C'est pas les bonnes catégories, en tout cas, pour accueillir sa parole.
On a cherché à opposer la doctrine et l'Évangile. Alors, et là, avec cette réponse, en fait, François nous dit...
C'est des catégories qui vont pas... On peut pas opposer la miséricorde à la doctrine, on peut pas opposer la tradition à l'ouverture, à la nouveauté. Enfin, il a dit la miséricorde, l'ouverture, la compassion à toutes les personnes et à toutes les situations, c'est la doctrine de l'Église traditionnelle. Ça appartient à la doctrine de l'Église. On ne peut pas opposer les choses. Ce n'est pas possible.
Alors, il y a un autre thème, c'est celui de l'écologie intégrale, avec l'encyclique Laudato si, publiée en 2015, qui a eu un rayonnement incroyable, y compris en dehors de l'Église, comme si on avait, à ce moment-là, compris ce qu'était l'écologie intégrale. Là, François a été vraiment un précurseur dans la vision écologique, pas seulement pour les catholiques, pas seulement pour l'Église catholique.
J'ai envie de répondre, avant de donner la parole au père Dauban, mais j'ai envie de répondre qu'il a sans doute été marqué par quelqu'un d'autre qui a fortement et qui continue de le faire, développer cette thématique dans son enseignement, dans sa sensibilité chrétienne, c'est le patriarche Bartholoméos, qui a une grosse production intellectuelle et pastorale, magistérielle, à propos de l'écologie, justement. Et quand François est devenu pape, Bartholoméos était déjà en fonction et déjà connu pour cet enseignement-là. Et François et Bartholoméos se sont rencontrés souvent, et je pense que Bartholoméos a pu influencer François dans sa propre sensibilité et son propre enseignement sur la question. Alors, en effet, le Laudato Si, qui est paru juste avant la COP21 à Paris, est un texte qui a fortement marqué, qui a été énormément lu et qui a sans doute influencé.
Y compris les politiques.
Beaucoup de politiques, d'experts qui ont souligné la qualité, justement. C'est pas un texte d'amateur. Il s'est beaucoup appuyé sur des expertises reconnues et prises en dehors de la sphère strictement religieuse. Et ce texte est un texte très très fort, souligné, reconnu. Mais qui n'est pas un texte pionnier, je le redis. Bartholoméos aussi, le patriarche de Constantinople, a un enseignement extrêmement fort et qui appartient à la tradition, là encore, une fois, de la révélation chrétienne. Chaque année, les papes, le 1er janvier, ont l'habitude de produire un texte sur l'écologie aussi, sur le respect de la création. Et voilà, et François s'est inscrit dans cette tradition-là.
Père Michel Dauban, sur ce texte, Laudato Si, qui nous présente à la fois une urgence de nous mobiliser pour protéger notre maison commune, pour prendre soin de notre maison commune, et puis donc cette urgence, et puis aussi en face cet appel à ce rappel de la nécessité de contempler la création. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce texte ?
Je retiens de ce texte le fait que nous sommes aujourd'hui plus que jamais, suite au pape François, invités à respecter la création, mais cette création ne se limite pas aux petits oiseaux et à l'herbe verte. La création, la perspective de l'écologie intégrale sous la plume du pape François, c'est l'ensemble de la création dont l'homme est au sommet, avec une attention à prendre soin des relations les uns avec les autres, avec toutes les questions sociales, sociétales que ça peut impliquer. Et ça, c'est très fort, et c'est pour cela, à mon avis, qu'il a touché au-delà de nos cercles catholiques chrétiens, et que un certain nombre de responsables politiques ont aussi salué un tel texte qui, directement ou indirectement, a pu les marquer, a pu les influencer. Je rajoute aussi le fait que, alors, par rapport au débat concernant le pape progressiste, moi, je pense qu'il a été profondément évangélique. Alors, non pas que les autres ne l'aient pas été, mais une fois de plus, c'est à travers une incarnation avec des actes qu'un discours a trouvé toute sa cohérence. Et puis, je rajoute aussi que Saint François d'Assise a fortement marqué le pontificat du pape François. Et là aussi, on voit bien, alors on le verra dans quelques semaines lorsque le prochain pape sera élu, mais les premiers gestes, les premières paroles et le nom même du pape, son habillement peut-être, je ne sais pas, enfin tout ceci est profondément symbolique. Donc je me rappelle en 2013, lorsqu'il est apparu sur le balcon de Saint-Pierre, on avait déjà en germe tout le programme et tout ce qu'il allait esquisser. Il fallait être aveugle pour ne pas voir ce qui allait se dessiner, et ça c'est formidable.
Je voudrais qu'on parle du pape François comme homme politique, puisque quand on parle, on parlait tout à l'heure des migrants, quand on prend la parole sur cette thématique de l'accueil des migrants, forcément, on a face à nous des hommes politiques qui, eux, s'engagent pour mettre en place des politiques pour interdire, limiter, gérer les flux migratoires dans leur pays, dans leur nation. Alors, forcément, on est nécessairement un interlocuteur politique face à des dirigeants politiques qui ont le souci de leur nation et pas de l'Évangile. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, là encore, sur l'écologie aussi, où le pape François a eu des mots qui ont influencé les politiques sur les directives à prendre pour l'écologie. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que le pape est un homme politique ? Même s'il ne veut pas l'être, forcément, il est regardé comme tel.
Nécessairement, l'Évangile en soi a une dimension politique au sens noble du mot politique. c'est-à-dire l'organisation de la vie commune des personnes humaines à l'échelle de la planète, à l'échelle d'une nation, à l'échelle d'un groupe d'hommes. Donc l'évangile ayant une dimension politique évidente puisqu'il parle de ces relations des hommes entre eux et avec la création, avec Dieu, bon, nécessairement l'enseignement du pape qui propose, qui rappelle l'enseignement de l'évangile et toute la cohérence de cet enseignement vient rencontrer, alors soit percuter, interroger, se mettre en contradiction, soit au contraire encourager, soutenir et voilà la responsabilité, les décisions de ceux qui ont pour mission, pour mandat d'organiser la vie commune, la vie des hommes entre eux. Alors vous dites que les hommes politiques ont le souci de leur nation et non pas de l'évangile. J'ai envie de dire ben justement les deux ne sont pas nécessairement incompatibles. Et tout l'enjeu est de dire que l'on peut organiser la vie des hommes en société en injectant des principes où les forts prennent soin des faibles, où il y a de la justice qui transcende les intérêts particuliers. Tout cela, les lois, la Constitution, ou le texte des droits de l'homme, etc., tentent d'organiser ça. Et il y a, évidemment, c'est parfois inspiré clairement de l'Évangile, d'autres fois non, mais c'est pas nécessairement incompatible.
Le bien commun, donc, c'est pas chasse gardée de l'Église.
Les responsables de l'Église encouragent les chrétiens, d'ailleurs, à s'engager dans des responsabilités politique pour précisément le plus possible injecter l'esprit de l'Évangile dans la manière d'organiser la cité au sens noble du terme. Alors évidemment, hein, si la politique est au service des seuls intérêts d'un seul pays, mon pays le premier et puis les autres, ben, tant pis pour eux, évidemment ça c'est pas l'Évangile. Mais par contre, organiser la société des nations, puis l'organisation des Nations Unies sur des principes de où on se protège les uns les autres, où on se soutient, où les riches prennent soin des pauvres, où les forts prennent soin des faibles, alors il y a là un idéal qui est aussi celui de la foi.
Les prises de parole du pape François face aux politiques ont été assez fermes. Alors on se souvient que devant les députés européens, il avait parlé de l'Europe, une grand-mère stérile. C'est pas les seuls mots fermes et durs qu'il a eu. Il fait porter la voix de l'Église, la voix du Christ devant ses dirigeants politiques.
J'ai envie de dire que la dureté est peut-être comme quand Jésus s'adresse aux pharisiens dans l'Évangile, à la hauteur de l'enjeu. Vous avez tout entre les mains pour être des gens formidables, pour faire le bien, et vous ne le faites pas. Et donc ça suscite de la colère. Mais c'est une colère qui est une colère d'amour, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas de la colère distante, froide, et puis du mépris et du rejet. C'est dire, mais bon sang, vous avez tout ce qu'il faut, les enfants, entre les mains, faites le bien avec ça.
Avant de marquer une pause, encore un sujet que nous pouvons évoquer, c'est la lutte contre les abus. Alors là encore, alors pour nous en France, évidemment, il y a eu pendant le pontificat du pape François tout le travail de la CIAZ et cet immense travail pour lutter contre les abus au sein de l'Église. Le pape François a publié en 2023 une lettre apostolique sur les abus et la responsabilité des évêques et des responsables religieux. On se souvient de cette phrase, à toi Seigneur la gloire, à nous la honte, faisant écho à tous les abus au sein de l'Église. Là aussi, ça a été encore un tsunami auquel a dû faire face le pape François. Il y en a eu d'autres, mais là encore, il a joué un rôle majeur pour nous aider à avancer dans cette lutte contre les abus.
Oui, mais à la suite de ce que Benoît XVI avait commencé.
Oui, c'est vrai.
Et c'est Benoît XVI qui a vraiment engagé l'Église dans cette démarche de vérité, d'accueil, et j'ai envie de dire, quoi qu'il en coûte, je crois qu'il faut rendre vraiment à Benoît XVI cet hommage-là, et François, ben, il a pris le relais avec beaucoup, beaucoup de détermination et de courage. Et vous savez, ces jours-ci, on s'interroge beaucoup déjà sur le prochain pape. Est-ce qu'il poursuivra ce que François a commencé? Est-ce qu'il, au contraire, il reviendra en arrière par rapport à... Bon, pour moi, l'Esprit Saint est à la manœuvre, si j'ose dire, hein, derrière nos papes, derrière la ligne, la trajectoire de l'Église. Et donc, je suis profondément convaincu que ce qui a été commencé continuera et se déploiera et se développera parce que c'est ça le chemin de vérité, de justice et l'Évangile, tout simplement, qui nous presse les uns et les autres du pape au dernier des baptisés de la vigile pascale dernière.
On remarque une pause et on vous retrouve juste après, Père Michel Dauban, Monseigneur Mika, pour continuer à parler du pape François.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Oh.
Vaquero, extrait du spectacle musical.
Présence à Millau, 106.5.
Bernadette de Lourdes, voilà, a été coupée par le jingle. Émission spéciale avec vous, Anne-Rose Jankovic. On parle bien sûr, on revient sur le décès du pape François.
Voilà, le pape François qui est décédé ce lundi de Pâques. Et pour en parler, eh bien, nous sommes avec Monseigneur Jean-Marc Mical, évêque de Tarbes et Lourdes, et le père Michel Dauban, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Alors, on a abordé plusieurs thématiques qui ont marqué le pontificat du pape François. On va maintenant faire une petite parenthèse pour parler des rencontres que vous avez eues l'un et l'autre avec le pape François. Je crois, père Michel Dauban, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, une quinzaine de jours, vous étiez à Rome précisément avec le jubilé des malades en compagnie de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, et vous avez rencontré le pape François. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Oui, ce fut très émouvant. Effectivement, une bonne délégation de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes s'est rendue à Rome pour ce jubilé des malades, et du fait de son indisponibilité liée à sa sortie de la clinique Gemelli, c'est Monseigneur Fisichella qui a présidé l'Eucharistie sur la place Saint-Pierre à Rome, et il a fait une surprise assez extraordinaire. À savoir que il est sorti, il est apparu à la fin de la messe sur son fauteuil roulant, simplement pour nous saluer, faire sa bénédiction, même si elle était courte, même si elle était brève, mais il nous a beaucoup touchés. Donc oui, je peux dire que au-delà de son homélie qu'il avait fait lire par Monseigneur Fisichella quelques minutes avant, et où il a dit fortement à quel point, en tant que soignant, en tant que personnel au service des personnes malades, nous avions à ouvrir notre cœur dans le domaine de la charité, et que c'était même les malades eux-mêmes qui pouvaient nous aider à les ouvrir, que c'était une opportunité pour nous et qu'il fallait en profiter, qu'il ne fallait pas la lâcher. Bref, ce fut un moment très très émouvant, bref mais très émouvant. J'étais ému, beaucoup de larmes ont coulé, et je crois pouvoir dire que le pape lui aussi était très ému, parce que j'étais à quelques mètres.
Oui, et puis il était lui-même souffrant et vraiment malade à ce moment-là. Donc évidemment, ces paroles ont dû résonner encore davantage dans votre cœur. Alors je crois que vous l'avez rencontré aussi ensemble, Monseigneur Mica, père Michel Dauban. Vous êtes allés à Rome ensemble en juin dernier, si je ne me trompe pas sur la date, pour rencontrer le Saint-Père. Quel souvenir commun vous gardez de ce moment-là, cette rencontre avec le Saint-Père ensemble, pour parler de Lourdes ?
Oui, j'avais souhaité vivre cette rencontre un peu plus de 2 ans après ma nomination comme évêque de Tarbes et Lourdes. Il avait donné au nonce apostolique quelques consignes précises à propos du sanctuaire de Lourdes pour la recherche du nouvel évêque pour le diocèse. Et donc, un peu plus de 2 ans après ma nomination, j'ai ressenti le besoin d'aller lui rendre compte de là où on en était, de comment j'avais reçu ce que le nonce m'avait transmis de sa part, dans le choix du recteur, dans le travail mis en place par le recteur et ses collaborateurs. Et c'est pourquoi nous y sommes allés ensemble. Ce que je retiens, c'est comment instantanément, tout de suite, dès que nous nous sommes retrouvés tous les trois dans son bureau, lui de son côté et le père Dauban et moi d'une autre, tout de suite, c'était un échange de pasteurs, entre pasteurs, à propos de l'église, à propos du sanctuaire, à propos des gens qui sont à Lourdes, à propos de ce qu'il nous avait dit de mettre en œuvre très 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 précisément dans le sanctuaire, en lien à la mission du sanctuaire, que le sanctuaire soit vraiment un lieu où la miséricorde de Dieu est signifiée, vécue, transmise, proclamée à temps et à contre-temps. Voilà, c'était une insistance très très forte de sa part, et il nous l'a redit, et nous avons rendu compte de notre mission l'un et l'autre 2 ans après avoir pris nos charges ici au sanctuaire de Lourdes.
On a compris que la miséricorde était vraiment le fil conducteur du pontificat du pape François. Pour lui, Lourdes, c'est un lieu qui illustre la miséricorde du Seigneur.
C'est un lieu qui, par excellence, doit l'illustrer, sans doute toute l'Église doit l'illustrer. Il l'a bien signifié dans l'année de la miséricorde, et un certain nombre de choses qu'il a dites à cette occasion. Je me souviens, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le redire, mais avoir été très marqué par la lecture d'un livre d'entretien avec Andrea Tornielli intitulé « Le nom de Dieu est miséricorde ». Il y a des passages de ce livre qui sont absolument bouleversants, des citations du pape qui sont bouleversantes, qui me marquent très très profondément et qui de fait orientent ma manière d'être gardien de la grotte ici à Lourdes. Mais là, on était... Voilà, très simplement, j'ai envie de dire, dans un échange de pasteurs, entre pasteurs qui ont ensemble, en commun, le soin de l'Église, chacun à son poste. Et voilà, c'était très très facile, instantanément, on était dans l'échange.
Lourdes est aussi un lieu de piété populaire. Là encore, le pape avait eu l'occasion de s'exprimer sur ces gestes de piété populaire. Toucher le rocher, mettre une bougie, un cierge, boire de l'eau. Tous ces gestes de Lourdes qui sont vraiment des gestes de piété populaire, eh bien, le pape nous disait de les regarder avec, là encore, on pourrait dire miséricorde, mais en tous les cas avec bienveillance. Ces gestes qui sont parfois un petit peu peut-être regardés avec négligence ou d'un air un peu moqueur, eh bien non, ils disent quelque chose vraiment de la foi du peuple de Dieu, Père Michel Dauban.
Je pense que c'est plus qu'un regard de bienveillance sur ces gestes-là qu'il nous invite à porter. Il nous a invités à découvrir que dans ces gestes-là, il y avait des germes d'évangélisation tout à fait extraordinaires et qu'il faut bien sûr les évangéliser, mais il faut les honorer, il faut les canaliser. Enfin, il faut être pasteur, il faut savoir être présent, accueillant à ces personnes qui viennent de différents pays, de différents de culture, de différentes manières de vivre et d'exprimer leur foi et de la célébrer pour précisément être tous confortés dans la foi qui nous est commune.
Alors on va parler à présent d'un autre sujet alors qui est peut-être un peu plus clivant, que j'évoquais en introduction, c'est celui de la tradition, puisque je disais en introduction, le pape François n'a pas toujours su se faire aimer des catholiques soucieux de la tradition et de la doctrine, en tous les cas se revendiquant comme tel, et à qui peut-être il n'a pas su faire comprendre le sens de sa lettre apostolique Desiderio Desideravi, qui portait sur la liturgie et le trésor qu'est l'Eucharistie. Alors avant cette lettre apostolique, il y avait eu un motu proprio sur la messe dite traditionnelle en latin. Est-ce qu'on peut parler de cette relation avec ces catholiques qu'on appelle traditionnalistes? Alors, j'aime pas trop employer ces termes parce qu'ils sont souvent galvaudés, utilisés parfois à mauvais escient, mais quand même, on comprend bien de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette relation-là du pape François avec ces catholiques qui sont là, qui ont leur foi, qui ont leur espérance, qui ont besoin aussi d'être accompagnés, nourris et qui n'ont peut-être pas compris ou qui se sont sentis mis à l'écart?
J'ai envie de dire très très simplement, il me semble que le souci de François, à la suite de ses prédécesseurs, est évidemment le service de l'unité de l'Église. Et l'unité de l'Église et dans l'Église passe par une unité de foi, de prière et de cœur. Et pour les chrétiens, l'unité de cœur, elle se nourrit dans la liturgie, dans la relation à Dieu. Que les prières, la manière de célébrer, et éminemment, de manière éminente l'Eucharistie, évidemment, vient servir. Bon. Donc ce souci de l'unité de l'Église, Benoît XVI, animé par ce souci, avait été conduit à proposer à l'Église un motu proprio dans lequel il ouvrait un chemin pour faciliter la marche vers la réconciliation des fidèles qui avaient suivi Mgr Lefebvre et tous ceux qui sont qui se reconnaissent dans cette même sensibilité à des degrés divers dans le lien à l'Église, ouvert un chemin vers la table commune des fidèles de l'Église catholique, donc de lever des excommunications, de faciliter la possibilité de rester attaché à une forme de liturgie qui leur est chère, mais en ne lâchant pas l'essentiel, c'est-à-dire, ben voilà, c'est pas si grave, c'est pas ce qui est premier, donc ok, on lâche du lest sur ce point-là, mais par contre, de votre côté, faites du chemin vers la communion et l'unité, en accueillant l'enseignement magistériel de l'Église sur tous les points, et notamment l'enseignement de l'Église tel qu'il est exprimé dans les textes du Concile Vatican II. Et ça, c'était non négociable. Le reste est négociable. Tout ça, ça vient au second plan. Mais par contre, l'enseignement magistériel de l'Église, ça, c'est premier. C'est la doctrine. Précisément, la doctrine, elle est là. C'est là qu'elle est formulée. Bon. Et donc, Benoît XVI avait ouvert cette facilité. Et François, qui a pris le relais, a constaté que malheureusement, cette ouverture avait été utilisée par certains comme une arme idéologique pour dire, vous voyez, l'Église reconnaît que c'est nous qui avons raison, et donc poursuivons pour que l'unité, elle sera quand tout le monde nous aura rejoint finalement. Et donc François, dans les explications qu'il a données au motu proprio, qu'il a lui proposé à son tour à l'Église, et qui est apparu comme l'annulation du précédent de Benoît XVI finalement, dans l'esprit de beaucoup, en réalité c'était la tentative n'a pas fonctionné exactement comme Benoît XVI le souhaitait, j'en prends acte et ouvrons de nouvelles portes plus exigeantes pour toujours permettre ce chemin vers l'unité. Le souci, c'est celui de l'unité de l'Église et dans l'Église. Alors évidemment, c'est compliqué, et désormais comme évêque, je porte une part de ce même souci. Je vois bien combien le sujet est sensible, douloureux, et combien il est affectif aussi pour beaucoup. Et voilà. Mais ce qu'il faut garder vraiment en ligne de mire et ne pas perdre de vue, c'est que nous sommes toutes et tous fils et enfants de l'Église, et que le Christ, en confiant sa mission à Pierre, a assuré Pierre et ses successeurs de l'assistance de l'Esprit pour préserver l'unité de l'Église et pour garantir l'unité de la foi. Et donc nous devons aborder le ministère du pape dans cet esprit-là, qu'il vienne conforter notre sensibilité ou au contraire l'interroger. Nous devons avoir un regard de foi d'abord et a priori sur son ministère. Je crois que à la veille de l'élection d'un nouveau pape, il faut aborder ce moment avec ce même esprit et non pas un regard trop politique. Il est de mon bord, c'est un bon pape. Il n'est pas de mon bord, c'est pas un bon pape. C'est pas comme ça que les chrétiens doivent aborder les questions, fût-elle éminemment sensible comme celle de la liturgie.
Alors ça veut dire qu'il ne faut pas trop se poser des questions sur le futur pape. Il faudrait qu'il soit comme ci, il faudrait qu'il fasse cela, ou il faudrait qu'il ne fasse surtout pas ça. Ça, c'est l'esprit, ça nous donnera le pape, comme vous disiez.
Il faut prier pour qu'il soit vraiment celui que le Seigneur veut pour son Église et pour ce temps.
Père Michel Dauban, peut-être un mot là-dessus, vous qui êtes, donc, je le rappelle, recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, le pape qu'il faut pour notre Église, pour son temps, c'est quel profil ?
Le profil du prochain pape, je pense que nous sommes nombreux à souhaiter qu'il soit proche du profil du pape François. Après, j'ai envie de dire avec humour que ce soit un pape qui aime la Vierge Marie, mais quel pape ne l'aime pas.
Et de fait, que vous pourriez inviter à Lourdes.
Concrètement, que nous inviterons à Lourdes très vite, et qui, nous l'espérons, honorera cette invitation. Alors après, il y a des débats aussi pour dire, voilà, mais il n'est pas venu à Lourdes, bon, c'est dommage, est-ce que vous regrettez ? Oui, bien sûr que nous regrettons, que je regrette. Après, en même temps, je pense que le fait qu'il ne soit pas venu est pleinement conforme aux intuitions fondamentales de son pontificat, qui, comme on l'a dit, consistait à aller vers les petites communautés, les fragilités. Alors, bien sûr, il y a des fragilités ici à Lourdes, mais on ne peut pas dire que ce soit une petite communauté, puisque nous accueillons des milliers, voire des millions de catholiques tous les ans. Bon, donc, de fait, l'Église de France et le sanctuaire de Lourdes sera heureux de recevoir celui que le Seigneur enverra à son Église.
Dans quelques instants, oui, Mgr Micard.
Oui, pardon. Je me souviens qu'avec le père d'Aubagne, quand nous l'avons rencontré au mois de juin dernier, nous avons été très touchés. Je me souviens qu'on lui a offert une petite vierge de Lourdes en plastique remplie d'eau de la grotte, toute simple, et que pendant l'entretien avec lui, trois fois, il a quasiment interrompu l'échange pour reprendre cette petite statuette de la Vierge remplie d'eau de Lourdes et nous remercier trois fois de lui avoir apporté cela et révéler que tous les jours, il versait un peu d'eau de la grotte de Lourdes sur, alors il désignait son cœur, peut-être un linge qu'il portait dans cette région-là, je ne sais pas, mais voilà, ça nous a beaucoup touchés. Il était évidemment éminemment attaché à la Vierge Marie, c'est pour cela que chaque voyage était précédé d'un passage à Sainte-Marie-Majeure et qu'au retour, il repassait par Sainte-Marie-Majeure et que c'est là qu'il a donné les indications pour que son corps repose désormais. Et donc, son attachement à la Vierge était évidemment sans soupçon et son attachement à Notre-Dame de Lourdes aussi.
Voilà, ben si on avait un doute, hein, c'est pas parce qu'il n'est pas venu à Lourdes qu'il n'était pas attaché à Notre-Dame et à Notre-Dame de Lourdes en particulier, Père Michel d'Aubagne.
Cette rencontre était vraiment bouleversante avec ce geste par rapport à l'eau de Lourdes, je souscris pleinement. Je rajoute que ce qui m'a le plus marqué de son pontificat, c'est pas forcément cet entretien qui était tout à fait privilégié, bien sûr, mais aussi l'année de la miséricorde, lorsqu'avec mon diocèse nous nous étions rendus en pèlerinage, et je me rappelle de cette catéchèse sur la place Saint-Pierre où il avait parlé fortement de la miséricorde et il a eu cette phrase « Tout saint a un passé, tout pécheur a un futur ». Voilà, un avenir. On n'est jamais réduit à ce que l'on fait, on est plus grand que ce que l'on peut faire, particulièrement de mal, et que la perspective, elle était belle, elle était ouverte, et voilà, ça c'était absolument bouleversant. Donc c'est une autre occasion pour moi de verser quelques larmes sur la place Saint-Pierre.
Mmh. Oui, c'est bouleversant aussi, par exemple, pour les prisonniers qui écoutent Radio Présence d'ailleurs, et qui peut-être entendent les mots que vous êtes en train de dire. Là encore, ce sont des personnes évidemment marginalisées auxquelles le pape François était sensible et pour lesquels il avait aussi des mots, une attention tout à fait particulière. La miséricorde, c'est ce que vous allez garder de ce pontificat. C'est vraiment l'héritage spirituel que le pape François nous laisse et que vous allez garder dans votre cœur, Mgr Micard.
Encore une fois, c'est gravé dans ma devise et c'est pas par hasard. Oui. Et j'ai eu l'occasion de m'exprimer déjà à ce sujet. C'est absolument évident que pour moi, François, le mot de miséricorde et la réalité de la miséricorde de Dieu qu'il confie au sanctuaire de Lourdes, j'ai envie de dire, comme un signe privilégié, marque mon épiscopat actuellement et ma vie sans doute à jamais.
Père Michel d'Aubagne, je vais vous demander à vous aussi peut-être un des textes du pape François qui vous a particulièrement touché, marqué, interpellé, peut-être qui vous accompagne pour mener votre mission du recteur, comme recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Est-ce qu'il y a, alors bien sûr la miséricorde, on l'a compris, mais est-ce qu'il y a un texte dans lequel vous plongez en vous disant ça vraiment, pour moi c'est comme une feuille de route?
Ah ben le texte tout à fait fondateur, c'est celui que Mgr Micard a évoqué au début de cette émission, la joie de l'Évangile. Bien évidemment, là aussi tout était en germe. C'est un discours programmatique avec les attentions aux petits, aux pauvres, précarité, aux périphéries, la joie, l'annonce missionnaire, l'urgence de l'évangélisation qui a eu, une fois de plus avait été évoquée par les papes précédents, mais qui a été reformulée d'une autre manière. Je pense que là on a un condensé de tout ce qu'il allait développer par la suite.
Voilà, alors on rappelle aux auditeurs que sur Internet, sur le site du Vatican, sur le site de l'Église de France, tous les textes du pape François sont disponibles. Et voilà, il ne faut pas hésiter à se replonger dedans. Mardi prochain, le 29 avril, Mgr Micard, vous célébrerez une messe en la cathédrale Notre-Dame de la Cède, à Tarbes, en mémoire au pape François, pour rendre grâce aussi pour ces années de pontificat. Évidemment, tous les diocésains sont invités.
Bien sûr, j'invite chaleureusement tout le monde à cette messe, en hommage au pape François. Et puis de même matin, à 10h, je présiderai la messe à la grotte, ici à Lourdes, que je célébrerai à l'intention du pape aussi.
Père Michel d'Aubagne, hier, quand nous avons appris le décès du pape François, c'était le moment de la messe à la grotte. Et les personnes, les pèlerins présentes à la grotte pour assister à cette messe ont appris vraiment le décès du pape pendant la messe. Monseigneur Dupuy a fait cette annonce. C'était tout à fait bouleversant. Peut-être que vous y étiez vous-même.
Ce dont je peux témoigner avec les différents échos que j'ai eus, c'est que dans les différentes messes qui ont été célébrées à cette heure-là, effectivement, un petit bout de papier a circulé et l'annonce a été donnée. Et il y a eu cette possibilité de changer l'axe immédiat de la célébration bien eucharistique, sûr. Puisque nous étions et nous sommes toujours d'ailleurs dans la joie pascale, mais de fait, voilà, grevé par cette nouvelle, et de fait que l'on continue à resituer dans la lumière de la résurrection, effectivement. Mais c'était un temps très très émouvant aussi, avec un grand silence dans le sanctuaire, et puis ce glas qui a sonné à cette heure-là, à midi, à 15h. Voilà.
Au sanctuaire, il y a un lieu peut-être où se recueillir en particulier ces jours-ci?
Alors, il faut encore que je puisse en parler avec les membres de mon conseil et qu'on puisse ajuster cela très précisément. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore très précisément quel jour sera les obsèques, et donc il faudra sûrement faire quelque chose.
Mais je peux rajouter qu'une des chapelles de la basilique du Rosaire, un portrait du pape est installé, les gens qui le souhaitent peuvent prier. C'est la chapelle de la résurrection dans la basilique du Rosaire.
Voilà, donc les pèlerins peuvent venir s'y recueillir. On va achever cette émission. Alors, on a eu l'information juste avant de démarrer. Les obsèques du pape François seront célébrées ce samedi à 10h, samedi matin. À 10h. Évidemment, les médias catholiques nous permettront de suivre ces obsèques et cette célébration. Merci beaucoup à tous les deux, Monseigneur Jean-Marc Mika, Père Michel d'Aubagne, merci de nous avoir accompagnés. On n'a pas pu malheureusement joindre Monseigneur Bertrand Lacombe qui devait être avec nous par téléphone, mais nous l'aurons dans la semaine, oui. C'est promis.
Il était dans un bus, donc et le bus n'est pas arrivé à destination, et donc il y avait un brouhaha, c'était pas possible de faire l'interview à ce moment-là, donc il s'excuse, bien sûr.
Effectivement. Puisqu'il me semble qu'il part en pèlerinage à Loyola avec les jeunes du diocèse d'Auch.
Voilà, et donc il y avait de l'ambiance dans le bus, je peux vous le certifier. Donc on ne pouvait pas faire l'interview de façon convenable. Donc il reprendra bien sûr rendez-vous avec vous, Anne-Rose.
Bien sûr, et nous aurons aussi l'hommage de Monseigneur Lacombe, donc, qui nous parlera du pape François, qu'il a rencontré il n'y a pas très longtemps, puisqu'il est allé à Rome pour le jubilé des diacres il y a quelques semaines. Il nous en parlera d'ici la fin de la semaine sur Radio Présence. Merci beaucoup.
Un grand merci à vous aussi, Anne-Rose Jankovic, pour cette émission spéciale sur le décès du pape François. Merci, et puis on se retrouve très, très prochainement, puisque je crois que vous allez aussi avoir d'autres invités d'ici la fin de semaine.
Oui, c'est une semaine un petit peu particulière. Évidemment, nous bousculons nos programmes. Nous aurons, donc vous l'avez compris, Monseigneur Lacombe. Nous aurons aussi Frère Martin de l'abbaye de Tournai, frère libraire, qui nous donnera des petits conseils de lecture, justement.
Et le père Pochelu, je crois.
Et l'abbé Baptiste Pochelu, voilà. Qui sera là vendredi pour nous parler de l'aspect protocolaire. Qu'est-ce qui se passe quand un pape meurt? Comment fait-on? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de siège vacant? Qu'est-ce qui se passe à Rome? Qu'est-ce qui se passe pour nous tous? Comment vont se passer les funérailles? Il nous dira tout ça.
Bon appétit, et puis on se retrouve très, très prochainement. Merci beaucoup, Anne-Rose Jankovic. On finit en musique avec les yeux de la maman Kenji Chirac.
Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi, quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. C'est son sang qui coule dans mes veines, et des souvenirs par centaines bercent mon cœur de mille étoiles. Elle est ma quête, elle est mon graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a m'emporte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'apportera avec elle, je lui serai toujours fidèle.
C'est avec le chanteur Kenji Girac et la maman que se termine cette émission spéciale. Très bon appétit si vous êtes à table. L'information revient sur Radio Présence.
Radio Présence à Ax-les-Thermes, 92.7.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Les funérailles du pape François auront lieu ce samedi 26 avril, veille du dimanche de la Miséricorde.